Le studio Kalangu que vous écoutez, il vient d'être à 18h, l'heure du journal en français avec Nafis Adam. Voyons à présent les titres de ce journal. Une trentaine de personnes mises aux arrêts suite à l'attaque perpétrée dans la localité de Bani Bongou le mardi 9 novembre dernier. Plus de précisions avec le préfet de Bani Bongou dans ce journal. Une importante quantité d'essence a été saisie par la douane avant-hier dans le village d'Abagungu à quelques 15 km de Niamey. Vous entendrez le chef de brigade de la douane dans cette édition. Adifa se déroulera du 12 au 15 novembre prochain, la quatrième campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne dite de riposte concernera les 5 pays du bassin du lac Tchad. COP22, suite de notre couverture de l'événement, dans la partie magazine, nous irons à la découverte de la ceinture verte à Douyamé. Bonsoir à tous. 21 terroristes et 8 complices, dont le technicien du commando et 4 chefs de village aux arrêts. C'est le bilan des arrestations perpétrées suite à l'attaque de la localité de Bani Bongou. Le point avec le préfet Ibrahim Malik, joint au téléphone par Abdoulaye Mamoudou.
Par rapport à la situation actuelle, tout est sous contrôle. Il y a eu des arrestations des terroristes après la débandade des autres terroristes. Donc, ils ont été pris avec des munitions et des armements. Selon les forces de défense et de sécurité, ils les ont traqués. Ils étaient retrouvés pour certains dans des maisons abandonnées à Bani Bongou, pour certains dans des maisons de complices. Au total, nous avons eu 21 terroristes, 8 autres complices impliqués là. Il y a des chefs de village, 4 dont 3 de Bani Bongou, 1 du département de Abala. Ce sont des gens qui étaient déjà d'être de connivence avec les terroristes. Et vraiment, de par l'enseignement que nous avons, ils sont venus un jour de marché et ils ont passé la nuit et il y a eu l'attaque la même nuit. Tout donne à croire que en fait, ils étaient de connivence avec la dame. En fait, riche à certains de ces terroristes. Ils ont été retrouvés chez elle.
Un garde national qui avait servi aussi à Bani Bongou.
Oui, celui-là, il est présenté comme étant technicien qui a eu à faire tout le planning de l'attaque. Il a été retrouvé parmi les assaillants. Nous avons sensibilisé les populations sur la nécessité de la pleine éducation pour passer à la sécurité.
Le préfet de Bani Bongou, Ibrahim Malik, que vous venez d'écouter. Les agents de la brigade d'intervention de la recherche à région Niamey-Tillabéri ont saisi le 9 de ce mois une importante fraude sous l'essence. Ils ont en effet saisi une importante quantité du produit dans le village d'Abadagungu situé à 15 km de Niamey. Explication du commandant Ousmane Amadou, chef de brigade adjoint au micro de Moutari Mahamadou.
Le 9 de 5h du matin à 21h, la douane on a mené une opération dans un village qu'on appelle Abadagungu, situé à 15 km de Niamey. Cette opération a été menée conjointement par les agents de douane de la Brigade Nationale d'Intervention et ceux de la Brigade d'Intervention et de Recherche Niamey-Tillabéri, appuyés par la Police Nationale. L'opération, c'est suite à un renseignement reçu par nos hiérarchies et l'opération nous a permis de saisir 321 fûts de carburant et 76 bidons de 25 litres et 37 bidons d'huile de moteur. Nous déplorons une chose, c'est un village où tout le monde est complice, y compris le chef du village. Vous vous rendez compte, il n'y a pas une maison où il n'y a pas 1, 2, 3, 4 fûts. Imaginons qu'il y ait un incendie, des répercussions, perte en vie humaine, dégradation de l'environnement. Compte tenu de tout ce que ça peut générer comme conséquence néfaste au pays, nous lançons un appel à tous les compatriotes de la a mené sa mission.
Je l'annonçais dans les titres, la quatrième campagne de vaccination contre la poliomyélite dite de riposte se prépare activement dans la région de Diffa. Elle se déroulera du 12 au 15 novembre prochain et concerne les 5 pays du bassin du lac Tchad. Selon le coordinateur d'immunisation à la Direction générale de la santé publique de Diffa, Ali Issa, tout est fin prêt.
Pour la vaccination polio orale, donc les enfants d'abord, c'est des enfants de 0 à 59 mois. Et la cible totale de la région est estimée à 213 935 enfants. Répartis comme suit à l'intérieur des districts, le district de Diffa a 110 677 enfants de 0 à 59 mois. Celui de Mayne a 65 447 enfants de 0 à 59 mois. Et enfin, celui de Ningimi a 37 812 enfants. C'est ça qui donne la cible régionale de 213 935. 5. Et pour la vitamine A, pour ce passage-ci, il y aura la supplémentation en vitamine A pour les enfants de 6-59 mois et le déparasitage à l'albendazole pour les enfants de 12-59 mois. Donc rapidement, la cible des enfants de la vitamine A estimée à 186 094 enfants de 6-59 mois. Et pour la vitamine A, pour l'albendazole, le total c'est un total de 168 721 enfants de 12-59 mois qui seront déparasités à l'albendazole.
Des propos recueillis par notre correspondant à Difa Adam Baboukarna. Le deuxième forum mondial de la diaspora Lumana se tient du 11 au 13 novembre 2016 au Palais de la Culture d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le président du Modern Fa Lumana, Hama Amadou, participe à ces assises de rencontres et d'échanges sur la vie politique de notre pays et le fonctionnement de leurs structures. Bana Ibrahim, membre du Présidium des jeunes Lumana, participe à ce forum. Il nous explique son importance et la place de la diaspora au sein du parti Lumana. Il est joint au téléphone par Moussa Maman.
Le forum de la diaspora permet aux militants de notre parti qui sont hors du Niger de se retrouver, de voir le fonctionnement de la coordination mondiale de la diaspora et aussi de faire des recommandations au bureau politique national pour améliorer l'apport de la diaspora dans le fonctionnement de notre parti. Le président Hama Amadou, il assiste aux assises du forum mondial puisque aujourd'hui il est hors du Niger, donc lui-même il est militant de la diaspora. Lumana de notre part. Donc la diaspora, comme à son habitude, que ce soit avant les élections, que ce soit aujourd'hui, la constitue la 9e région de notre parti, la 9e région du Niger. Les élections générales de 2016, notre parti a, malgré les hautes et autres intimidations, porté 2 sièges au niveau de la diaspora, ce qui ne reflète pas du tout les forces en présence au niveau de la diaspora. Nous sommes convaincus que la diaspora est à 90% Lumana.
Un mot de santé. Dans ce journal, la question du secret du statut sérologique des séropositifs, c'est le thème d'une réunion hier à Maradi du bureau exécutif national du syndicat unique de la santé et de l'action sociale à Suisas avec ses militants de Maradi. Le premier secrétaire général adjoint du BEN Suisas à Ibro Kané regrette que certains agents ne respectent pas le secret. On l'écoute.
Il y a un certain nombre de problèmes qu'on a rencontrés par rapport à la stigmatisation et à la discrimination liées au VIH dans le milieu médical. Quand vous prenez la stigmatisation des PVVIH, nous sommes les mieux placés à les protéger parce que c'est nous qui travaillons avec eux. Ailleurs, d'ailleurs, sur ce plan, on nous a dit non, c'est le système même qui le stigmatise, l'organisation même de sanitaire qui le stigmatise parce qu'on place une maison et on va dire, ah, ça c'est la maison d'un tel, ça c'est le service où telle catégorie de personnes partent. Ça, c'est des choses que nous n'avions pas en vue. Mais maintenant que c'est les militants même de la base qui nous ont dit ça, nous, ça nous réconforte. L'objectif, c'est l'amélioration vraiment de la qualité de nos prestations. Nous avions aussi la rappelé aux camarades pour qu'ils prennent conscience. Et il est important qu'ils se rappellent pour que nous puissions mettre de l'ordre. Quand on met de l'ordre dans notre travail, c'est en ce temps que le syndicat est clean. Il a le droit maintenant de pouvoir faire des offensives pour réclamer plus.
Ibro Kané, premier secrétaire général du Suisas, au micro de notre correspondant Mohamed Maman. Suite aux incessantes grèves dans le secteur éducatif, le gouvernement a rencontré hier les différents syndicats de l'éducation afin de trouver les voies et moyens de résoudre la crise. Quelles sont les conclusions de cette rencontre? Réponse avec Ali Osamna, co-coordinateur de la Convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation.
Le gouvernement de la 7e République commence à l'accoutumier, a eu donc à nous appeler après nous avoir d'abord assigné un référé et après avoir perdu le jugement à une rencontre avec la partie gouvernementale. Nous nous sommes retrouvés pour qu'on puisse trouver des solutions par rapport aux préoccupations des enseignantes et des enseignants. Au niveau donc de la cause Niger, nous l'avons dit que nous sommes les respectueux donc de la loi. Le gouvernement est en train de faire des retenues sur les salaires pour faire des grèves. Nous sommes d'accord, mais la loi les interdit d'affecter nos camarades de façon arbitraire et de les relever de leurs responsabilités. C'est pour cela que nous avons posé le préalable qu'il n'y aura pas de négociation dans les détails tant que la partie gouvernementale ne revient pas sur les décisions d'affectation arbitraire, de résiliation donc des contrats. Pour cela, un comité a été mis en place qui est censé vraiment régler cette préoccupation et proposer les solutions à la partie gouvernementale. Nous attendons que les ministres prennent en charge ces questions et qu'ils prennent des actes de façon à rétablir nos camarades dans leurs fonctions. À cette condition, effectivement, nous allons nous retrouver pour pouvoir continuer à discuter sur les autres points qui sont les préoccupations l'approbation de la cause Niger.
La mairie d'Agadez a pris un arrêté interdisant aux camions gros porteurs d'oignons de quitter la ville, raison invoquée le non-paiement des taxes de production. Cette décision du maire d'Agadez a surpris les producteurs. Écoutons les explications du président de la Chambre d'agriculture d'Agadez au micro de notre correspondant Moussa Maman.
Le blocage, les maires veulent instaurer une taxe sur la production de 25 francs par sac de 50 kilos. Donc on a dit non, c'est pas possible parce que il y a les communes de production comme Tabelo, Tchirou, Zérine, Timia, Dabaga, déjà qui prélèvent la taxe sur la production, 25 francs par sac. Donc ici, la commune urbaine, c'est juste la commune transitoire. Donc là, on s'est arrangé il y a plus de 4 ans de cela parce que au travers l'appui du Prodecos, on a déjà mis un bon d'allèvement en circulation. Il y a les taxes municipales de la mairie. Ça veut dire que tout camion qui charge est obligé de payer 5000 francs, les grands porteurs. Et 10 tonnes, c'est 2500. Donc ça veut dire déjà on prélève la part de la mairie pour éviter surtout quelques difficultés qu'on rencontre sur la route de passage des oignons. Aujourd'hui, les maires de la commune urbaine d'Agadez viennent bloquer les véhicules. Et aujourd'hui, si on permet d'arrêter les véhicules, donc ça c'est un grand danger pour les producteurs. Parce qu'il faut voir la mévente. On va essayer de rencontrer les maires en hiver pour statuer sur ces problèmes-là.
La région du Maradi a décidé le mercredi de libérer les champs au profit des éleveurs le 31 décembre 2016. Cette décision est prise au sortir d'une rencontre qui a regroupé autorités administratives, coutumières et les groupements des agriculteurs et éleveurs de toute la région. Ceci pour prévenir d'éventuels conflits entre agriculteurs et éleveurs. Explication du secrétaire permanent du Code rural de Maradi, Gallo Badagé.
À partir du 31 décembre 2016, c'est la date officielle de la libération des champs à l'échelle de la région du Maradi.
Autrement dit, aujourd'hui, tous les agriculteurs doivent prendre les mesures pour libérer le champ le 31 décembre.
Ça fait partie effectivement des engagements pris par rapport aux participants, de le retour en tout cas d'informer l'ensemble des producteurs pour qu'ils puissent accélérer la récolte, pour qu'ils puissent en tout cas bien conserver leurs produits, en tout cas d'ici le 31 décembre 2016.
Et les éleveurs ont pris des engagements pour garder les animaux avant la date?
Et les représentants des éleveurs qui sont aussi partie prenante de cette décision, en tout cas sont pris de l'engagement, en tout cas d'informer les autres éleveurs qui n'étaient pas à la réunion, de rester dans les espaces pastoraux, en tout cas prévus jusqu'à ce que les champs soient libérés donc à cette date du 31 décembre.
La mairesse de Birnin Gaouré, Asma Okosieti, a été destituée hier par une majorité de ses collègues. La motion de défiance avait été déposée par un groupe de conseillers il y a une semaine. Information donnée par Alpha Abdulwahib, conseiller municipal, qui précise que cette motion avait été déposée une première fois il y a 3 ans et reconduite à depuis.
Je dois préciser, il y a de cela quelques temps, et il y avait un certain nombre de remous qui ont commencé depuis le 5 août 2013, date à laquelle l'adjoint au maire, M. Adam Diofo, présentement chef de cabinet du ministre des Finances, avait rendu sa démission. Et dans sa correspondance de démission, ce qui l'a motivé à démissionner, ils avaient pour motif le dysfonctionnement de l'administration municipale, le non-respect des 45% du budget prévu pour l'investissement, la mauvaise gestion de l'aide offerte dans le cadre des inondations de l'année 2012, la mauvaise répartition des semences destinées à la commune urbaine de Birnin Gaouré, le non-respect de la tenue des sessions ordinaires du conseil, l'absence de rapport pour l'année 2012 et l'absence répétée du territoire communal sans motif valable, sans prévenir qui que ça soit.
À présent, la partie magazine de ce soir, nous allons à la découverte de la ceinture verte de Niamey. Cet espace vert créé depuis les années 60 par l'État du Niger pour préserver l'environnement et la ville de Niamey contre les intempéries liées au changement climatique. Écoutons Sani Mahazou, directeur général de l'environnement et du développement durable.
La ceinture verte de Niamey a été installée depuis plus de 3 décennies autour de la ville de Niamey qui fait environ 2500 hectares. Et cette bande verte, son objectif est de protéger la ville de Niamey contre les intempéries et les phénomènes extrêmes climatiques, à savoir des pluies fortes, des vents de sable, les poussières, mais aussi quand même toute pollution atmosphérique qui pourrait venir en dehors de Niamey. Mais ça permet aussi de capter toutes les émissions du gaz carbonique qui est émis par les industries du Niamey, par les automobiles et toute la circulation routière de la ville du Niamey.
À travers quelques constats sur le terrain, on constate que cet espace vert n'existe aujourd'hui que de nom. Alors, qu'en est-il exactement de la situation?
C'est vrai, la ceinture verte fait l'objet de beaucoup de convoitises. Le premier ennemi de la ceinture verte, c'est l'accaparement des terres de la ceinture verte à des fins de lotissement d'habitation ou bien des établissements commerciaux. Mais aussi, la ceinture verte est agressée aussi par des coupes abusives et le déversement illicite des déchets ménagers, des déchets solides, urbains ou bien des eaux usées. Elle fait l'objet aussi d'installations des squatteurs qui sont venus en dehors de la ville de Niamey et qui s'installent de manière illégale. Depuis mai dernier, un comité interministériel a fait le constat que réellement la ceinture verte fait l'objet de menaces et donc a pris des mesures conservatoires pour pouvoir sauvegarder et récupérer l'ensemble et l'intégralité de la ceinture verte en interdisant toute mise en valeur, tout lotissement, toute construction sur l'emprise de la ceinture verte et les forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité publique dans la région du Niamey a été instruit pour veiller à l'observance de cette mesure et le ministère chargé de l'environnement fait de son mieux pour pouvoir restaurer toutes les superficies dégradées. Notamment, ça a commencé cette année par la plantation d'arbres sur deux grands sites dégradés importants au sein de la ceinture verte. La ceinture verte n'est pas seulement du ressort. On a investi pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt des générations présentes et futures. Donc, tout le monde doit veiller, que ce soit les pouvoirs publics, la population devront veiller à la sauvegarde de la ceinture verte parce qu'elle a une vocation d'intérêt général.
Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute du forum du studio Kalambo, c'est tout de suite avec Diallo Maria Makenda.